Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. La liturgie n'est pas une belle cérémonie, un rituel où nos gestes, ou pire, nos vêtements sont centraux. La liturgie est l'action de Dieu sur nous. Des mots du pape François devant les membres de la communauté catholique Shalom, réunis à Rome à l'occasion des 40 ans de la fondation de cette communauté. Nous en parlerons dans cette édition avant de nous rendre en Côte d'Ivoire, où l'Église a vécu dans la joie l'ordination épiscopale de Monseigneur Alain Clément Amiesi, nouvel évêque d'Odienné. L'actualité sociale et politique en Afrique nous conduira notamment au Sénégal, en RD Congo, en Centrafrique. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
La liturgie n'est pas une belle cérémonie, un rituel où nos gestes, ou pire, nos vêtements sont centraux. Non, la liturgie est l'action de Dieu sur nous. Lundi, le pape s'est félicité de l'institution des Moïsèches, un laïc brésilien qui, lors du chant de l'offertoire, a souhaité donner sa vie pour le Seigneur. C'était il y a 40 ans. Il fondait la communauté catholique Shalom. Depuis, cette association des fidèles des droits pontificales a essaimé de par le monde, sur les continents américains, européens et africains. 1000 de ses membres étaient lundi à Rome pour renouveler leurs vœux auprès du pape. Marie Duhamel.
Dans un monde frénétique, comment persévérer dans notre amitié avec Dieu? Il convient de rester unis au Christ comme le sarment à la vigne, en restant en lui par la prière, l'écoute de sa parole, l'adoration, pour que la lymphe de l'Esprit-Saint passe de lui à nous, a affirmé François. Le pape a pris le temps de répondre aux questions de la jeune communauté. Comment, justement, conserver la fraîcheur de la jeunesse? Le pape suggère de rester à l'écoute de l'Esprit-Saint qui renouvelle les cœurs, mais aussi des jeunes, sans être paternaliste ni tenter de les utiliser ou encore de les copier. Dans une réponse plus articulée, le Saint-Père a également parlé de l'identité et ainsi de l'avenir de la communauté Shalom. Shalom, ce mot n'est pas un slogan, mais la paix concédée par le Christ ressuscité, et eux qui ont reçu cette paix sont appelés à la transmettre. François encourage aussi les membres de la communauté catholique à continuer de valoriser les dons, la vivacité dont est riche l'Église du Brésil, leur terre d'origine. Proche d'un évêque local, le pape leur demande de conserver toujours cet esprit d'obéissance filiale, d'affection vis-à-vis de leur pasteur. François les invite enfin à la responsabilité et à la prudence concernant les personnes qui souhaiteraient offrir leur vie au Seigneur au sein de la communauté Shalom. François parle du respect de la liberté des individus, des temps de croissance propres à chacun, d'un juste accompagnement dans les choix de vie, la docilité à l'Esprit-Saint, l'expérience et l'écoute de l'Église Mère leur enseignera à éviter toute forme d'ingérence dans les consciences et permettra à leur structure commune de protéger les différents charismes et leur juste autonomie.
Dans la matinée de lundi, le pape a également reçu les sœurs tertiaires capucines de la Sainte Famille, réunies à Rome à l'occasion de leur 23e chapitre général. Partant du thème de leur chapitre général, l'écoute humble et la synodalité, le pape François a invité les tertiaires capucines à être des prophètes de l'écoute silencieuse dans un monde plein de bruits qui abrutissent l'homme. Aller à contre-courant de la cacophonie du monde aidera à cultiver l'écoute silencieuse de Dieu et de l'homme, afin de parvenir à une harmonie, une symphonie qui permet de marcher ensemble dans la synodalité. L'écoute de l'autre qui est différent de moi amène aussi à comprendre l'autre qui est en difficulté et lui venir en aide, a encore dit le pape François. Au chapitre des nominations, le Saint-Père a nommé préfet du dicastère pour la culture et l'éducation le cardinal José Tolentino de Mendoza, qui était jusqu'à présent archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église romaine. Comme nouvel archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église romaine, le pape a nommé Monseigneur Angelo Vincenzo Zani. Il était jusqu'à présent secrétaire de la Congrégation pour l'éducation catholique. L'actualité de l'Église en Afrique nous conduit en Côte d'Ivoire. Monseigneur Alain Clément Amiesi, nouvel évêque d'Odienné, a été ordonné le samedi dernier. Au cours de la messe d'ordination, l'archevêque de Korogo, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, a invité le nouvel évêque à prendre pour modèle le Christ qui n'est pas venu pour être servi mais pour servir, pour ne pas être soumis à la tentation des dominations. Des précisions de Marcel Ariston-Blé.
Ministrare non ministrari, servir et non être servi, devise épiscopale choisie par le nouvel évêque d'Odienné, Monseigneur Alain Clément Miesi. Lors de l'homélie qu'il a prononcée, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain de Korogo, s'est arrêté sur cette phrase forte du Christ, le grand prêtre par excellence qu'il a appelé, l'élu du jour à imiter dans l'exercice de son ministère épiscopal en étant tout à tous. Il a mis en garde contre toute tentation de domination.
Vous serez tenté par la soif de domination, un venin dangereux et pour l'Église et pour la société. Vous serez attiré par l'exercice du pouvoir selon le monde, lequel est un véritable poison qui bouche les narines de l'Église et l'empêche de respirer à plein poumon.
Cette tentation de l'esprit du mal, Monseigneur Bessi l'a invité à la combattre vigoureusement, sans merci et sans répit, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Ainsi, pour sortir victorieux de ce combat, l'archevêque consécrateur principal l'a conseillé de se mirer toujours, tous les matins, devant le miroir de Jésus, son maître et modèle. Ce miroir coûte cher, lui a-t-il signifié, c'est le miroir du service d'esprit. Esclave qui va jusqu'au don de sa vie en rançon. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Passons à l'actualité sous salle politique en Afrique. La Casamance s'est recueillie lundi à la mémoire des près de 1900 passagers du Sénégal et des multiples nationalités morts 20 ans plus tôt, jour pour jour, dans les naufrages de Joula, un des pires désastres maritimes civils de l'histoire. Une centaine de parents et d'officiels ont participé tôt dans la matinée à deux courtes prières, musulmanes et catholiques, auprès d'une cinquantaine de tombes au cimetière des Kanténé, à la sortie des Ziguinchor, capitale de la Casamance, dans le sud du Sénégal, d'où était parti le ferry le Joula, le 26 septembre 2002, pour allier Dakar. Une délégation officielle a déposé des gerbes, puis des femmes en longues robes traditionnelles et leurs familles se sont approchées des sépultures pour signifier leur respect. Les activités étaient paralysées lundi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, dont les habitants sont restés chez eux à l'appel d'organisations de la société civile afin de dénoncer l'occupation d'une localité de la région par les rebelles du M23. La Loucha, une organisation de la société civile, a appelé à la tenue de deux journées ville morte lundi et mardi à Goma, chef-lieu de la province, pour dénoncer les silences de la République face à cette occupation. Accusé devant la Cour pénale internationale des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, l'ex-commandant rebelle présumé de la Centrafrique, Mahamat Saïd Abdel Kani, a plaidé non coupable lundi lors de l'ouverture de son procès à La Haye. Accusé notamment d'avoir torturé des personnes détenues lors des troubles civils en 2013, Saïd Abdel Kani fait face à 7 chefs d'accusation des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis entre avril et août 2013 à Bangui contre des détenus soupçonnés de soutenir l'ancien président François Bozizé. Apparu dans les années 80, les nouchi est un mode d'expression en Côte d'Ivoire. Mélange des français et de plusieurs langues vernaculaires du pays, il a connu une certaine évolution ces dernières décennies pour devenir un outil essentiel des communications dans le pays. L'Institut français en Côte d'Ivoire a décidé d'enseigner les nouchi cette année dans ses locaux à Abidjan Plateau. Au micro de Marcel Ariston Blé, notre correspondant à Abidjan, Céline Debos, directrice du pôle français de l'Institut français, nous décrit les enjeux de cette initiative.
Le nouchi enseigné à l'Institut français de Côte d'Ivoire, pour un institut censé promouvoir la langue française, les raisons, pourquoi?
Parce que aujourd'hui la réalité nous rattrape et en fait on se rend compte que le français, en tout cas dans la région et qui plus est en Côte d'Ivoire, n'est plus ce seul français académique, pas non plus le français de France, mais un français qui se développe, qui s'enrichit en fonction des contextes et des réalités des gens qui le parlent. Et donc c'est un français qui aujourd'hui se retrouve en lien avec d'autres langues, qui sont donc des langues parlées régionalement, parfois aussi dans d'autres pays, et en ce qui concerne notre quotidien abidjanais, très souvent avec le nouchi. Pour comprendre aussi certains aspects de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas désolidariser le français aujourd'hui du nouchi dans notre offre de langue.
Quels pourraient être les objectifs d'un tel programme d'enseignement?
Alors les objectifs, ils sont comme pour toute autre langue enseignée, considérée comme une langue étrangère, parce que je le rappelle, ici à l'Institut français de Côte d'Ivoire, on enseigne le français comme une langue étrangère, c'est-à-dire à des personnes qui ne le parlent pas au quotidien. Donc on n'est pas dans des objectifs de, je dirais, littérature ou de structure de la langue, on est vraiment dans des objectifs de communication pour comprendre et se faire comprendre. Donc là, le Nouchi, c'est la même chose. On ne va pas l'aborder de façon universitaire ou de façon, je dirais, linguistique ou sur quelque autre discipline que ce soit. On va vraiment l'enseigner de façon à ce que nos apprenants, une fois sortis de notre bâtiment, ils puissent l'utiliser pour prendre un taxi, pour faire leur marché, pour sortir, etc. Donc en fait, on va avoir une pédagogie qui se construit sur une base de progression, je dirais de la base, hein, commencer à se présenter, parler de soi en Nouchi, et puis s'ouvrir sur les difficultés et sur d'autres sujets beaucoup plus globaux, parler de l'actualité aujourd'hui en Nouchi. Voilà ce qu'on va enseigner.
Les retombées de cette initiative pour un citoyen ivoirien ou tout autre intéressé, qu'est-ce que cet enseignement pourrait rapporter de plus?
Alors, moi je vais avoir une réponse sur tout autre intéressé, en englobant bien entendu les Ivoiriens, mais de façon générale, toutes les personnes qui vivent à Abidjan, je dirais que ça va permettre une meilleure compréhension, ça va permettre aussi une plus grande proximité avec ce qui se vit ici, parce qu'il faut pas oublier que la langue c'est aussi le reflet d'une culture, et que finalement, lorsqu'on parle qu'une facette de la langue, enfin dans ce cas le français académique, on se coupe du reste, et en fait la réalité étant plurielle, il faut que les langues le soit aussi.
Personnellement, quel regard portez-vous sur le Nouchi?
Alors moi, j'ai une approche très pragmatique parce que je suis avant tout une enseignante de français langue étrangère, donc j'ai été formatée au côté communicationnel, au côté parler pour faire quelque chose et au côté parler une langue pour comprendre l'autre dans une logique interculturelle. Donc moi, je l'aborde sans parti pris, comme un enrichissement, un complément par rapport à des demandes que l'on me fait. Lorsque les élèves, les apprenants, comme on les appelle, adultes non francophones viennent ici, ils me disent « moi je veux apprendre le français » pour pouvoir évoluer au quotidien à Abidjan. Et jusqu'à présent, c'est vrai que j'avais qu'une réponse partielle parce que je leur proposais un français, je dirais, académique. Et finalement, c'était une réponse, je dirais, à 50% parce que pour le reste, pour leur quotidien, pour ce besoin qu'ils avaient là, ils ont besoin de connaître le Nouchi et puis aussi les variétés de français qui sont un autre sujet. Mais pour dire que finalement, le français académique ne répondait pas aux besoins de ces personnes qui viennent avec des objectifs très précis et qui sont normaux, puisque quand on habite quelque part, le but c'est de sortir et d'être en interaction.
Est-ce que le Nouchi ne va pas contribuer à la baisse du niveau de langue, je veux dire la langue française chez les apprenants ici en Côte d'Ivoire?
Alors ça me fait toujours sourire de penser qu'une langue exclut l'autre, qu'un monde exclut l'autre. Non, je pense qu'au contraire, ça peut justement attirer les intérêts vers tout ce que le Nouchi a de français, par exemple, et puis voilà, contribuer à alimenter le français. Le français, de toute façon, comme le dit Alain Mabankou, qu'une langue est généreuse lorsqu'elle en féconde d'autres. Et il ne faut pas oublier que le français, c'est une langue qui a aussi grandi au rythme de ses métissages.
Céline Desbosses, directrice du pôle français de l'Institut français en Côte d'Ivoire, dans des propos recueillis par Marcel Ariston-Blé.
Vaccin pour tous.
Existe-t-il une alternative au vaccin contre la COVID-19? Dans le cadre de notre campagne Vaccin pour tous, le professeur Isaac Tiembré, sous-directeur de la vaccinologie à l'Institut national d'hygiène publique, membre du Task Force Vaccination COVID-19 en Côte d'Ivoire, nous donne son avis sur une possible alternative au vaccin contre la COVID-19.
Il n'existe pas d'alternative efficace contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire et dans le monde de façon générale, parce que nous savons que la vaccination, c'est un moyen simple, efficace, disponible, accessible de protection individuelle et collective contre la COVID-19. La vaccination, c'est vrai, elle rentre dans le cadre de d'une stratégie globale, parmi laquelle on peut citer la surveillance, la riposte, les mesures barrières, mais la vaccination est le moyen le plus sûr. Et il n'y a pas d'alternative au vaccin contre la COVID-19 parce que avec le vaccin COVID-19, on est protégé et cette protection nous permet d'éviter les formes graves, voire les hospitalisations et même les décès.
Le professeur Isaac Tiembré, sous-directeur de la vaccinologie à l'Institut national de l'hygiène publique en Côte d'Ivoire.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service français Afrique des Radios Vatican, Stanislas Kambashi qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.
Sans suo come in suo.